Gloire te soit rendue, Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, Seigneur. Donnons gloire, Seigneur. Non pas à nous, Seigneur. Mais à ton nom, Seigneur. Donnons gloire, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, encore t'exprimer, Seigneur, notre reconnaissance, Seigneur, et te dire, Seigneur, de continuer à prendre soin de nous, Seigneur, comme tu le fais, Seigneur. Et de nous donner, Seigneur, aussi l'oreille attentive, Seigneur, pour pouvoir t'écouter lorsque tu nous parles. Et aujourd'hui, Seigneur, à travers ton serviteur, Seigneur, tu veux encore nous parler, Seigneur. Alors, Seigneur, nous voulons nous asseoir à tes pieds comme le faisaient les disciples d'antan, Seigneur, et puis recevoir ton enseignement. Ton enseignement qui, nous sommes convaincus, va nous faire grandir, va nous enrichir, éternel Dieu. Et nous permettra, Seigneur, d'être encore plus fort et de tenir fermement encore ta main et rester vraiment fermement attaché à tes voies et attaché à ta parole. Alors donne toute la force, l'autorité, la puissance nécessaire à ton serviteur pour parler de toi, éternel Dieu. Qu'il ne puisse pas imaginer retirer une seule chose, Seigneur, que des mots que tu lui as confiés. Mais qu'il puisse vraiment, Seigneur, les retranscrire, Seigneur, comme il a reçu de toi. Qu'il n'ait pas peur de nous blesser, de nous vexer, Seigneur. Non, Seigneur. Mais parce que c'est toi qui parles. Et nous savons, c'est toi qui parles à travers ton serviteur. Et lorsque tu parles, Seigneur, c'est pour notre bien, éternel Dieu. C'est pour nous conduire de plus en plus vers le ciel, là où tu sièges, éternel Dieu. Alors bénis ton serviteur, et bénis-nous aussi, Seigneur, parce que tu es le Dieu béni. Que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen.
Bonjour, bien-aimés. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en direct, hein, sur Zoom. Prions. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure, ce chant qui dit « Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison ». C'est vrai que nous sommes dans ta maison, mais aussi, Seigneur, à travers Zoom. Mais Seigneur, nous avons soif de t'entendre. Nous avons soif de toi. Que ce soit à la maison ou ici même. Alors Seigneur, nous voulons simplement te dire de te manifester. Manifeste-toi, Seigneur, à travers ta parole aujourd'hui. Seigneur, tu m'as confié cette mission en ce matin. Simple serviteur, Seigneur, sers-toi de moi, comme tu le veux, Seigneur. Comme l'a dit le frère dans la prière, Seigneur, que tu puisses me donner la force et la puissance, Seigneur, pour que je puisse apporter ta parole ce matin. Afin, Seigneur, que tes enfants, ton peuple, soient enrichis aujourd'hui. Bénis-moi comme je te demande de les bénir, que ce soit ici ou dans leur domicile, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, en espérant que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Moi, je me porte bien, ainsi que toute ma petite famille. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 4 et au verset 23, Le Seigneur nous donne un merveilleux conseil. Merveilleux conseil. Il nous dit, certains connaissent ce verset par cœur, hein, il nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Ça c'était la version Lu Second, mais dans la version du Semeur, il dit, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur. Veille soigneusement sur ton cœur. Car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. C'est un bon conseil, n'est-ce pas? Tout simplement parce que le Seigneur nous aime et il voudrait que l'on garde notre cœur. C'est vrai que depuis bientôt un an, hein, maintenant, hein, le monde vit des moments difficiles à cause de ce virus, de cette pandémie qui sévit dans le monde entier. Il y a eu beaucoup de pleurs à cause des morts que nous avons eues, que ce soit en France, mais dans le monde aussi. Les familles ont été endeuillées à cause de ce virus. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous nous réunissons dans notre église, mais nous n'avons pas beaucoup de frères et de sœurs qui peuvent venir à l'église, que ce soit chez nous, ici à Créteil ou ailleurs. C'est restreint. Mais cela n'empêche pas la parole de Dieu de se propager quand même. Parce que nous avons la technologie qui nous permet d'écouter la parole de Dieu. Alors nous voulons dire gloire à Dieu pour cela. Mais certains vivent dans la crainte, dans l'angoisse. Nous sommes obligés de porter des masques. Quand on regardait à la télévision, en Chine ou au Japon, ils portaient des masques à cause de la pollution. Jamais on n'a pensé à un certain moment qu'on serait obligé de porter des masques aussi, nous. Mais tout cela, c'est pour notre protection. Hein. Il n'y a plus de fêtes. Certains mariages annulés. Tout ça afin d'éviter que l'on se contamine et aussi qu'on puisse contaminer les autres. Le virus, nous savons pas d'où il vient, mais nous savons qu'à un certain moment, un homme a été contaminé. Et lui, par la suite, ça a été la chaîne, il a contaminé les autres ont contaminé, ainsi de suite. C'est une histoire qui se répète, hein. On a eu pas mal de virus dans le monde, hein, qui ont contaminé les hommes, le Stras, l'Ebola, etc. Mais quand on regarde, il y a des milliers d'années aussi, il y a une contamination. Et je pense que c'est le plus grand qui ait existé jusqu'à maintenant. Il y a un virus qui a touché les hommes. Quel est ce virus ? On va revenir à la création. La Bible nous raconte que à la création, l'homme a été fait à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, c'est quelques attributs que je vais donner, mais il y en a plein d'autres. C'est l'intelligence. Dieu a donné l'intelligence aux hommes. Il leur a donné la capacité de communiquer clairement avec les autres. Ce que ne peuvent faire les animaux, par exemple. L'image de Dieu, c'est l'amour aussi. La parole de Dieu dit que Dieu est amour. C'est sa nature même. C'est la sainteté aussi. Dieu est trois fois saint. Il est pur, il déteste le mal. Et il nous demande d'être saints comme lui, il est saint. Ça, c'est quelques attributs. Mais l'homme à la création possédait tous ses attributs. Et quand Dieu a tout créé, il a, toujours dans Genèse, hein, on est, hein, il a dit que cela était très bon. Donc ça veut dire que sa création était parfaite. Quand il a fini de créer, de tout créer, il a pris l'homme, que lui-même a créé, et il le plaça dans un jardin, le jardin d'Éden, pour cultiver ce jardin et pour le garder. L'homme à ce moment-là avait tout de son, il avait besoin pour vivre dans la joie et dans la présence de Dieu aussi. Dieu lui a donné le pouvoir sur tous les animaux, sur la nature même. Et l'homme était heureux à ce moment-là. Seulement, il avait l'autorisation de tout manger dans son jardin qu'il devait cultiver, sauf d'un seul arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2, 16-17. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu n'en mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'était l'avertissement que le Seigneur avait donné à l'homme. Malheureusement, l'homme a tout gâché. Tout ce qu'il avait, à cause de sa désobéissance, en mangeant de ce fruit, de cet arbre qui était interdit. Et à partir de ce moment, nous avons été contaminés. Et c'est là ce virus qui est rentré dans le monde. Nous avons été contaminés. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Et c'est le plus grand virus qui existe depuis. La parole de Dieu nous rappelle aussi que c'est pourquoi c'est par un seul homme que le péché est rentré dans le monde. Et par le péché, la mort. Ainsi, la mort s'est étendue. Donc, le virus de la mort s'est étendu sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Le virus de la mort s'est complètement développé. Et on reste encore dans la Genèse. Plus tard, l'histoire, nous avons connu le plus grand meurtre, le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Tout simplement parce que le mal est rentré dans le monde. Connaissons tous l'histoire de Caïn. Caïn qui s'est mis dans une très grande colère. Tout simplement parce que Dieu a préféré l'offrande de son frère plutôt que le sien. Et à cause de sa jalousie, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Mais avant de faire ce geste, Dieu avait prévenu Caïn. Il lui a dit, pourquoi tu te mets dans une très grande colère, Caïn? Dieu a vu la colère de Caïn. Il savait ce qu'il allait faire. Pourquoi ton visage est aussi sombre? Vous savez, parfois nous sommes en colère et on a un visage vraiment masqué. Et comme les taureaux qui veulent foncer, Et le Seigneur lui dit, pourquoi tu as ce visage? Le Seigneur lui dit, si tu agis bien, tu te relèveras. Donc ça veut dire, ce que tu as dans la tête, dans tes pensées, si tu enlèves ça de tes pensées, tu vas te relever de tout ça. Mais si tu agis mal, si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et son désir se tourne vers toi. Ça veut dire que ce que tu as, la pensée que tu as, si tu n'enlèves pas cette pensée, tu agiras. Et quand tu agiras, ça sera trop tard. Ce sera le mal. Alors maîtrise-toi. Maîtrise cette mauvaise pensée, cette colère, pour ne pas le regretter plus tard. Depuis, les hommes ont toujours le penchant pour le mal. Vous savez, si on met le bien et le mal à côté, le plus souvent, les gens penchent plus vers le mal que vers le bien. Le penchant pour le mal est plus fort que le penchant pour le bien. La Bible dit que l'homme, le cœur de l'homme est tortueux. Par-dessus tout, il est méchant. Et c'est pas comme ça que Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme avec un cœur pur. Mais l'homme est devenu méchant. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes ces pensées, les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Chaque jour, uniquement vers le mal. Les hommes pensent que de mauvaise façon, la pensée des hommes est tournée vers le mal. Quand on regarde de nos jours, rien n'a changé, malheureusement. Et je dirais même que ça s'empire. Il n'y a pas un jour que nous allumons la télévision ou la radio que nous n'entendons pas de mauvaises nouvelles. Tu te fais agresser pour un rien. Tu ne fumes pas, on te demande une cigarette. Tu dis que tu n'as pas de cigarette parce que tu ne fumes pas. Tu te fais agresser, peut-être même mortellement. Tu as un regard qui est peut-être pas un mauvais regard, mais pourquoi tu me regardes comme ça? Tu te fais agresser. La violence est partout. Dans notre pays, nous avons vécu une année où toute l'année était, où il y avait des violences en marge des gilets jaunes. Je n'associe pas les gilets jaunes avec la violence. Je dis que en marge des manifestations des gilets jaunes, il y a eu plein de violences. Il faut faire la différence. On entend maintenant violence policière. On entend maintenant violence sur les policiers. Les pompiers viennent pour aider, ils se font tabasser. À l'époque, on respectait les pompiers, on respectait les policiers. Maintenant, il n'y a plus de respect. Il y a aussi les féminicides. Qui aurait pensé qu'un homme allait tuer sa femme, sa propre femme? Pour X raisons que ce soit, on ne tue pas. Il y a des meurtres partout. Il y a des propos grossiers. On entend maintenant les jeunes, et pas que les jeunes, et à part, le Seigneur dit qu'aucune mauvaise parole ne sorte de ta bouche. Mais on n'entend que ça, des propos grossiers. Mais le Dieu que nous servons, c'est le vrai Dieu. Tout simplement parce qu'il prévient avant que la chose arrive. Il y a des dieux qui sait quand la chose arrive, ils parlent. Mais notre Dieu parle bien avant. C'est pour cela qu'il nous a parlé dans 2 Timothée. Il a dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et tout ce que nous vivons actuellement, nous voyons que la parole de Dieu se réalise, est en train de se réaliser. Car les hommes seront égoïstes. On voit que les hommes sont égoïstes maintenant. Amis de l'argent. Maintenant, c'est que l'argent. L'argent, l'argent et l'argent. Et parfois, l'argent facile. Il y a une pub qui passe à la télé, vision, et ça m'a interpellé quand même. C'est une pub qui dit, tu ne le portes pas, mais vends-le. On voit, vous voyez de quoi je parle. Mais à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, tu ne le portes pas, tu le donnais à la Croix-Rouge, tu le donnais à une association pour que qu'on puisse le donner à d'autres personnes qui ont le besoin. Maintenant, on te dit, tu ne le portes pas, vends-le. Tout simplement, il n'y a plus de solidarité. Et c'est Il y a cette société, mais il va y en avoir d'autres. Donc ça veut dire qu'on va plus donner et on pensera qu'à l'argent. Les hommes seront blasphémateurs. Qu'est-ce que nous voyons? Il n'y a plus Dieu. Les gens te disent ni Dieu ni maître. Rebelles à leurs parents. Et quand la parole de Dieu dit rebelles à leurs parents, souvent nous pensons aux jeunes, aux ados, pré-ados. Mais ce sont pas que des jeunes qui ont des parents. Les cinquantenaires ont leur maman aussi, ont leurs parents. Et eux aussi, ils sont rebelles à leurs parents. Alors quand la parole de Dieu dit rebelles à leurs parents, parle pas que spécialement que des jeunes. Bien que le plus souvent, c'est des jeunes qui sont rebelles à leurs parents. Ennemis des gens de bien. Quand tu fais le bien, on te met dans une case. Aimant le plaisir plus que Dieu. C'est vrai que maintenant, les hommes, Dieu, ils connaissent pas. Ils veulent mettre Dieu à côté. Leur plaisir passe avant. Parfois, ils te disent même ma poche. Je préfère voir ce qui se passe dans ma poche que de voir, d'aller à l'église, par exemple, que tu me parles de Dieu. Les hommes se sont égarés. Égarés dans leurs pensées. Et malheureusement, leur cœur sans intelligence, comme dit la parole de Dieu, est plongé dans les ténèbres. Tout cela parce qu'ils ont rejeté Dieu. Dans le livre des Romains, au verset 21 jusqu'à 32, la Bible nous parle. Et Dieu dit, l'homme a voulu me rejeter, mais voilà. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Ce que vous voulez être impur, mais moi je vous laisse dans votre impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Ils servent le diable au lieu de servir Dieu. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Parole de Dieu nous dit là, en ce moment, que malgré tout ce que la société veut nous faire croire, qu'à la base, Dieu a dit l'homme quittera son père et sa femme, et son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. Mais l'homme, avec ses mauvaises pensées, avec le mal qui est rentré dans le cœur de l'homme, a détourné la vérité de Dieu. Maintenant, c'est un homme avec un homme et une femme avec une femme. Et si tu as eu le malheur de dire que tu n'acceptes pas cela parce que tu es un chrétien, tu pourras même être jugé pour cela. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leurs sens réprouvés. Vous ne voulez pas me connaître, mais tant pis. Faites ce dont vous voulez pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse. On voit maintenant que l'homme est rusé. Et pour en rien, il y a des querelles. Médisant, impie, arrogant, fanfaron et ingénieux au mal. C'est-à-dire que l'homme réfléchit, mais vraiment, comment faire le mal? L'homme crée lui-même une loi, mais en même temps, il réfléchit comment détourner cette loi. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui le font. On peut accepter, par exemple, on a vu plus haut, que les hommes se mettent avec les hommes. On peut l'accepter en tant qu'enfant de Dieu. Tu vas pas l'insulter, tu vas pas lui cracher dessus, tu vas pas le brûler. Mais il faut lui dire que je n'approuve pas ça. Ça, c'est ton truc, c'est pas le mien. Aujourd'hui, les hommes appellent le bien mal et le mal bien. Mais si toi, tu viens, tu dis, non, je ne pense pas comme toi, eh bien, on te dit que tu es un conservateur. Tu ne vis pas avec ton temps. Le temps a évolué. Vis avec ton temps. Et il faut même que toi, tu évolues. Parce que si tu vis pas avec ton temps, c'est que toi, tu n'évolues pas non plus. Évolue, mon gars. Nous sommes dans une société laïque, en France. Et cette société pense que elle peut s'en sortir sans Dieu. Malheureusement, nous savons que c'est pas vrai. Et heureusement pour nous, nous savons que c'est pas vrai. Quand nous voyons l'évolution de la société, nous voyons que cette société touche principalement les jeunes. Il commence par les jeunes. Inculquer de mauvaises pensées aux jeunes afin que les jeunes puissent grandir avec ces pensées. Nos enfants maintenant, de maintenant, même nos adultes, nos jeunes adultes, quand ils verront deux hommes s'embrasser dans la rue, pour eux ce sera naturel. La société nous dit maintenant que le mariage c'est obsolète. Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Maintenant, la société nous dit que pas la peine de se marier. Tu éviteras plein de problèmes après. Si tu veux partir, tu partiras libre, plus d'avocat, rien du tout. Ils ont fait le pax. Après maintenant, c'est mariage pour tous. Tout cela, c'est à cause du mal. Mauvaise évolution de la société. Mais c'est vrai que parfois, il y a des lois qui font avancer la société. Pour améliorer la vie des hommes, leurs relations entre eux. Et ça, on peut pas le nier. Et c'est déjà pas mal. Mais tant que le cœur de l'homme demeure ce qu'il est, penchant vers le mal, il ne fera reculer les perversions du mal dans la société. Tant que l'homme ne tournera pas son cœur vers Dieu, tout ce que nous voyons actuellement, ça ne changera pas. Parce que c'est un manque cruel d'amour. Et c'est vrai que, en tant que chrétien, quand nous regardons, parce qu'on nous dit, il faut pas regarder derrière nous, il faut regarder devant, il faut regarder la croix. Mais parfois, il faut regarder derrière soi pour voir où on était. Et quand nous regardons où nous étions avant, nous voyons qu'il est impossible de devenir meilleur sans l'intervention de Jésus. Personne ne peut devenir meilleur dans la société actuelle sans l'intervention de Jésus dans sa vie. Jésus disait à Nicodème qu'il faut naître de nouveau, sinon personne ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème, qui n'avait rien compris, demandait, est-ce que je vais rentrer encore dans le ventre de ma mère pour naître à nouveau? Nous savons bien que ce n'est pas ce que Jésus disait. Jésus disait que sans mon intervention, sans ta repentance, tu ne pourras pas voir le royaume de Dieu. Il faut que tu me laisses intervenir dans ta vie afin que tu changes. Paul allait sur le chemin de Damas, il allait faire des choses abominables. Et il s'est arrêté net, tout simplement parce que Jésus est intervenu à ce moment-là dans sa vie. Il a eu des écailles dans les yeux, et ces écailles sont tombées. Tout simplement parce que Jésus est intervenu dans sa vie. Le Seigneur nous donne un conseil, il nous dit, ne sois point sage à tes yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. C'est un bon conseil. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Et il dit encore, ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. Le Seigneur nous a tracé une voie, un chemin. La parole de Dieu nous dit que Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Seigneur nous a tracé un chemin, il nous a dit, c'est sûr, ce chemin, que je te mets et c'est sur ce chemin que tu dois suivre. Ne prends pas la voie des méchants, aucune de ces voies. Mais l'homme veut vivre comme il veut. Et quand il veut, il vit comme il veut, comme il l'entend, la parole de Dieu nous dit qu'il est dénué de sens. Il est fou. Il est sage pour lui, mais fou pour Dieu. Vivre sans dépendre de Dieu ne nous rendra jamais sages. Ne prenez pas la voie des méchants. Mais au contraire, Seigneur nous dit, au contraire, devenez donc les imitateurs de Dieu. Imitez Dieu. Ce que Dieu est, ce que Dieu veut, ce que Dieu fait. Parce que tout ce que Dieu fait et tout ce que Dieu est, c'est bon. Dieu déteste le mal. Et comme des enfants bien-aimés, marchez dans la charité à l'exemple de Christ. Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Suivez l'exemple de Christ. L'homme a été contaminé, nous avons été contaminés. C'est vrai que actuellement, avec ce virus, ils cherchent un médicament, ils cherchent un vaccin. C'est la course au vaccin. Et l'homme a été contaminé, mais ce qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu a donné le remède. Il avait déjà le remède. Et le remède, c'est Jésus-Christ. Par son amour, il s'est donné pour nous. Et c'est là le remède. Et quand on met sa confiance en Christ, la parole de Dieu nous dit que nous sommes purifiés par le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour chacun d'entre nous. Ça, c'est le remède. Dans l'histoire de la Bible, il y a une histoire, cette histoire me fascine. C'est l'histoire de Job. Quand on regarde l'histoire de Job, moi je me demande si c'est moi qui étais dans ce cas-là, est-ce que j'aurais survécu? Quand on regarde l'histoire de Job, Job a été éprouvé. Il a subi pas mal d'épreuves dans sa vie. Il a tout perdu, jusqu'à ses enfants. Mais la partie de l'histoire qui m'a interpellé, c'est quand ses amis sont venus le visiter. Et quand tu souffres au point même de prendre des tessons de bouteille pour te gratter, ça veut dire que la souffrance est à son summum. Et quand tu as des amis qui viennent te visiter, normalement tu dois attendre un réconfort, un soutien, quelqu'un qui t'encourage. Mais là, quand ces trois amis sont arrivés, on dirait qu'ils sont venus pour l'abattre, pour l'enfoncer. Ils l'ont accusé de péché contre Dieu. Mais c'est là, cette histoire me fascine, c'est que quand, malgré tout leur accusation, Job n'a pas eu dans son cœur le mal pour eux. Job ne s'est jamais dit, vous me faites du mal, mais dans mon cœur, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Et c'est là que ça me fascine encore plus, c'est que Job a même prié pour eux. Job, versets 42, 7 et 8. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Job, à un certain moment, il a reconnu que Dieu était le Tout-Puissant. Et les deux autres amis, les trois amis, n'ont pas reconnu. Prenez maintenant sept taureaux et sept béliers, allez auprès de mon serviteur Job, et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Malgré tout le mal que ses amis lui ont fait, Job n'a pas gardé rancune. Au contraire, il a prié pour ses amis. Maintenant, nous, comment nous aurions réagi? Est-ce que nous aurions réagi comme Job, en repentant qui a reconnu la grandeur de Dieu? Est-ce que nous aurions réagi comme Job qui a reconnu que personne ne peut s'opposer aux pensées de Dieu? Est-ce que nous aurions réagi comme Job sans parler et comprendre des choses qui nous dépassent? Parce que c'est ce que Job a dit. Hein? Job a dit, j'ai parlé de des choses sans comprendre les choses qui me dépassent. Comment nous aurions réagi par la suite? Pardonner, comme Job a fait, et prier pour ses amis, ou nous aurions appliqué cet adage qui dit œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as fait ça, je te remets ce que tu m'as fait. Tu m'as fait le mal, ben je te rends le mal que tu m'as fait. Parfois même en tant qu'enfant de Dieu, on peut dire, ben oui, mais je te pardonne, mais j'oublie pas. Alors que Dieu nous dit que je pardonne et je jette au fond de la mer. Le Seigneur nous exhorte à ne pas nous laisser vaincre par le mal, mais au contraire, surmonter le mal par le bien. Dieu veut que nous fassions le bien, que nous n'agissions pas avec de mauvaises pensées, que nous fassions pas le mal. Et certains détournent la parole de Dieu, parce que Jésus a dit à un certain moment, si quelqu'un te gifle, mais tant l'autre. On te dit, mais puisque c'est ça, puisque Jésus lui-même dit ça, mais tant l'autre, c'est pas ce que Dieu nous demande. C'est pas dans cet esprit que Jésus avait dit cette parole. Mais Dieu nous demande de surmonter le mal par le bien. Dieu nous demande d'agir avec intelligence et sagesse. Agis avec intelligence et sagesse. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Le Seigneur nous dit, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec douceur de la sagesse. Si tu dis que tu es sage et que tu es intelligent, mais montre-le par la douceur et la sagesse. Et le Seigneur dit, mais si vous avez un cœur, dans votre cœur, un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas pour autant. Ne mentez pas contre la vérité. Tout simplement, le Seigneur ajoute, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. C'est pas Dieu qui donne cette sagesse. Ta sagesse, c'est ta folie. Mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Donc ça vient pas de Dieu, ça vient du diable. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Dieu nous demande de réfléchir à la sagesse aujourd'hui. Quand nous avons un conflit, réglons le conflit par la sagesse que Dieu nous donne. Mais non avec un zèle amer. Parce que si on veut régler un conflit avec un zèle amer, ça va dégénérer et ça ira vers la dispute et les querelles. Nous devons tout faire, tout notre possible, pour rechercher la sagesse. C'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Faites tout votre possible pour la chercher, cette sagesse. Il faut qu'on désire même la sagesse. Et nous savons que la sagesse, c'est Dieu lui-même. Mais Dieu nous donne aussi comment nous devons faire pour obtenir cette sagesse. Il nous dit premièrement que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Commençons par là déjà, par crainte de Dieu. Et après, on verra pour la suite. La crainte de l'Éternel, c'est vraiment le fondement même de la sagesse, parce que Dieu, c'est la sagesse lui-même. Craindre Dieu, c'est pas trembler devant lui, hein, même si nous devons trembler devant Dieu, parce que il est fort et redoutable. Mais dans ce sens, Dieu nous demande simplement de lui faire confiance, de se conformer à sa parole, à sa volonté. Comment obtenir la sagesse, c'est aussi, il faut être humble dans ce que nous faisons. Il faut l'humilité. Il faut être modeste. Tout simplement parce qu'il faut qu'on admette que sans Dieu, on ne peut rien faire. Et que nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Pas comme ceux qui disent ni Dieu ni maître. Il faut aussi qu'on efface fasse tout notre possible pour enlever cet orgueil qu'il y a dans notre cœur. Parce que Dieu fait grâce aux humbles, nous dit la parole de Dieu. Obtenir cette sagesse aussi, il nous faut prier, bien entendu, parce que la parole de Dieu nous dit que s'il nous manque de sagesse, il faut tout simplement qu'on lui demande. Et il l'accorde à tous. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Dieu va pas nous reprocher quoi que ce soit, mais il va simplement regarder de nos cœurs. Et elle lui sera donnée. La parole de Dieu aussi nous dit que Comment savoir si nous avons la sagesse qui vient de Dieu ou si c'est la sagesse diabolique? La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, la sagesse d'en haut est pacifique. La sagesse d'en haut est modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité, d'hypocrisie. C'est ce que Jacques nous dit. C'est tout le contraire, vous vous souvenez, de ce que nous avons vu dans 2 Timothée 1 à 4, un peu plus haut dans la prédication. La sagesse de Dieu est pure. Dieu ne peut pas, on ne peut pas avoir la sagesse de Dieu si nous avons de mauvaises pensées, des mauvais désirs. Donc Dieu nous demande de nous détourner de ce qui est mauvais. La sagesse de Dieu nous demande de rechercher la paix à tout prix. Et la paix, c'est un des fruits de l'esprit, selon Galates. Et la parole de Dieu nous dit aussi, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Recherchez la sagesse à tout prix. Recherchez Dieu. Si nous désirons la sagesse de tout notre cœur, le seul moyen, c'est d'étudier la parole de Dieu. C'est uniquement en étudiant la parole de Dieu que nous pouvons avoir la sagesse. Parce que la parole de Dieu, c'est la source du savoir et de l'intelligence. Et c'est là aussi qu'on apprend à connaître Dieu, à savoir qui est Dieu, à comprendre ce que Dieu aime et ce qu'il déteste aussi. On peut s'approcher de Dieu, c'est déjà bien, parce que beaucoup de personnes s'approchent de Dieu, mais ne rencontrent pas Dieu vraiment. Le rencontrer et vivre pour lui et de lui, afin que nous aussi nous soyons un modèle dans ce monde. Il y a une sœur qui prie souvent et qui dit dans sa prière que ce monde est rempli de péchés. Ce monde, c'est le péché qui règne. Mais si nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous ne connaissons pas qui est Dieu, on va automatiquement dévier vers ce monde de péché. Si nous voulons être sages aux yeux de Dieu, pas à nos yeux, nous devons tout simplement suivre les instructions de notre Seigneur, qui est la sagesse lui-même. Si nous obéissons à la parole de Dieu, automatiquement la sagesse de Dieu pénétrera dans notre cœur. Et Dieu gardera nos voies et nous protégera du mal. Je termine avec deux versets. C'est Ecclésiaste 7, 29 et toujours Ecclésiaste 12, 13 à 15. Ecclésiaste 7, 29 nous dit « Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. C'est la conclusion d'Ecclésiaste. Il a dit, parmi tout ce qu'il a vu sous le soleil, et il a compris que Dieu a fait les hommes droits. À la création, l'homme était droit. Mais les hommes ont cherché beaucoup de détours. Et c'est ce qui se passe actuellement aussi. On cherche vraiment beaucoup de détours. Ecclésiaste 12, 13 à 15. Il dit, écoutons la fin du discours. La fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Crains Dieu et observe ses commandements. Et il dit, c'est là ce que doit faire tout homme. Tous les hommes doivent craindre Dieu et observer ses commandements. Et après, il y a un petit avertissement à la fin. Il dit, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Seulement, voilà ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. Amen.